L'écriture est un sport comme les autres. Nathalie Azoulay, Ghislaine David. Quand les écrivains s'engagent dans une pratique physique, tournent-ils le dos à l'écriture? Ou la retrouvent-ils dans le mouvement, dans les gestes mêmes du corps? Bonjour Luc Lang, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'une douzaine de romans à ce jour, et quand vous n'écrivez pas, entre autres choses, vous faites du karaté.
Oui.
Depuis combien de temps et à quelle fréquence faites-vous du karaté?
Laissez-moi calculer, un peu plus de 30 ans que j'en fais. Et j'en fais tous les jours, en fait, à part le mercredi, mais sinon j'en fais tous les jours, oui.
Mais est-ce que dans l'emploi du temps, il y a une articulation très nette pour vous entre le moment du karaté et le moment de l'écriture?
Oui. Oui, par nécessité, parce que déjà, il y a les biorhythmes qui font que je sais très bien maintenant quand est-ce que... écrire est utile ou quand est-ce qu'écrire est inutile. Ça, c'est une chose. Et puis, bah, il y a les horaires du dojo aussi qui, mais ça convient très très bien puisque les horaires du dojo correspondent à des moments où, de toute façon, je suis plus capable d'écrire. Donc, l'un et l'autre s'articulent très très bien.
Ça veut dire que vous allez au karaté après avoir écrit.
Voilà.
Et jamais dans l'autre sens.
Jamais dans l'autre sens, non.
Pourquoi? En dehors des horaires du dojo?
Ben, en fait, après le karaté, je suis disponible à... ça me rend extrêmement disponible aux autres, et donc à la vie en société. En fait, ça me rend tout à fait paisible et disponible. Et, alors que l'écriture est quand même une activité plus enfermante. Après, il y a une espèce de temps d'atterrissage. Et donc, le fait d'aller au karaté après avoir écrit, à la fois me repose, m'ouvre au monde et me rend disponible pour ensuite être dans la civilité.
Et ça veut dire que vous faites combien d'heures de karaté par semaine?
À peu près 5-6 heures.
Alors comment commence-t-on à faire du karaté? Est-ce qu'il faut au départ une expérience un peu traumatique d'agression? Une expérience de violence, de défense, d'attaque?
Non, pas du tout, pour ma part. En fait, mon père était judoka. Et en fait, il m'a élevé dans cette sorte de foi en les arts martiaux. Et de cette sensation... de cette sensation d'énergie qui vient du ventre, enfin, des choses qui m'apparaissaient assez abstraites, je dois dire, quand il m'en parlait. Il m'évoquait des ouvrages japonais de philosophie zen ou de religion, je ne sais pas si on doit dire l'un ou l'autre. Et donc j'ai été vraiment baigné, si vous voulez, dans cette atmosphère. Mon père, qui était par ailleurs ouvrier, trouvait là son aristocratie, si je puis dire, et sa vision du monde. J'ai donc commencé par faire du judo. Et puis j'avais une espèce de mal de mer qui est lié au mouvement circulaire. Donc je retrouvais le même mal de mer qu'avec la valse. C'est pourquoi je préfère le rock'n'roll quand je danse, puisque j'aime danser. Et donc je me suis dirigé vers le karaté un peu par hasard, et puis c'est devenu une passion.
Et quelle est la différence entre un art martial et un sport ?
C'est très très différent parce que il n'y a pas de dimension quantitative dans les arts martiaux, à la différence des sports qui se mesurent en temps. Dans les arts martiaux, il n'y a pas de quantification, et puis surtout c'est quelque chose qui s'envisage comme une pratique qui engage la vie tout entière, puisqu'on peut imaginer très bien à 80 ans pratiquer encore avec la même intensité, sinon qu'on adapte sa pratique à la réalité de sa morphologie, à la réalité de son âge. Et donc on est du coup engagé dans une entreprise qui n'a rien à voir avec un quelconque exploit sportif. Même si par moments ça se rejoint, évidemment. Il faut plutôt penser au zen, je crois, quand on pense à la pratique des arts martiaux plutôt qu'à un sport.
Et vous, quel type de karaté pratiquez-vous précisément ?
J'essaye de pratiquer toutes les facettes du karaté, c'est-à-dire à la fois les katas, les kyons et les combats. Les katas, si vous voulez, sont des chorégraphies qui sont réglées à l'avance. On pourrait dire que ce sont les textes du karaté. Les textes en ce sens que ça serait, si on compare à la Bible, les katas seraient les textes sacrés. En fait, ils racontent un combat. Et donc, quand vous exécutez un kata, vous exécutez le récit d'un combat. Vous avez 25 katas. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle les bunkai, qui sont l'interprétation des katas. L'interprétation des katas, c'est-à-dire que vous allez faire le kata, mais vous allez faire le kata avec des interlocuteurs, enfin d'autres combattants. Et vous allez montrer donc l'application du kata dans une réalité mimée du combat.
Parce que le kata se pratique tout seul, sinon.
Le kata se pratique tout seul. Et on envoie les applications avec 1, 2, 3 partenaires, puisqu'ils racontent le récit d'un combat contre 1, 2, 3 partenaires. Et donc, les bunkai, si vous voulez, c'est à peu près la glose des pères de l'Église quant au texte sacré. Et donc, vous avez des interprétations par milliers possibles, puisque pour un seul geste, vous avez au minimum, je dirais, 3 interprétations possibles, c'est-à-dire pour un geste, vous avez au moins une saisie, vous avez au moins une parade, une défense, vous avez au moins une attaque, et vous avez probablement une clé. Donc vous avez au minimum 4 interprétations possibles d'un seul geste, mais quand je dis 4, je suis loin du compte en fait. Donc il y a une très très grande érudition des corps, si vous voulez, à travers les arts martiaux.
Donc si on revient au principe du karaté, il est animé par le combat décisif, par l'attente d'un combat décisif, par l'imagination ou l'hypothèse d'un coup mortel.
Oui.
Est-ce que ces hypothèses animent la séance de karaté quotidienne ? Est-ce qu'on pense au danger à ce point et au risque de la mort à chaque fois qu'on fait du karaté ?
Non. On est surtout obsédé par la réussite du geste. Mais au bout d'un moment, la réussite du geste, elle est une sensation intérieure qui ne se joue pas par rapport à un adversaire, mais qui se joue par rapport à soi-même. L'atteinte de la perfection du geste ne relève pas de l'autre, mais de soi-même. Et il s'agit de s'absorber totalement dans l'effectuation du geste et d'arriver à la perfection de ce geste.
Donc on peut oublier l'idée du combat ? L'objectif du combat.
L'idéal serait d'oublier la réalité du combat et d'effectuer un geste d'une telle pureté que le combat serait gagné. Donc c'est une sorte de désubjectivation, si j'ose dire. C'est l'inverse d'une subjectivation maximale, c'est une désubjectivation maximale. C'est l'objectivité du geste parfait qui s'accomplit. Et donc on est totalement dans la sensation, on est dans un pur présent.
Mais c'est quand même par l'idée du combat que s'est développée, je dirais, toute la grammaire du karaté, et notamment toute cette grammaire de vigilance qui anime l'esprit.
Oui, parce qu'au départ, la création du karaté, en fait, sont des techniques de combat de gens pauvres, à savoir des paysans d'Okinawa, qui ont sans arrêt leur terre pillée par des princes qui, eux, sont des gens riches et qui portent le sabre. Et donc, ils sont armés et eux n'ont pas d'armes. Et donc, ils essayent de développer des techniques de combat qui leur permettent de lutter contre des gens qui ont des armes. Et karaté-do, ça veut dire la voie de la main vide. Et donc c'est l'idée qu'avec les mains vides, eh bien, on peut se servir de ses mains comme des armes.
Donc les mains et les pieds deviennent des sabres.
Voilà.
Et le fait que vos bras et vos jambes et vos mains deviennent des sabres instruisent votre corps dans le sens de l'aiguisement, de l'affûtement. Est-ce que cette sensation et cette perspective de l'affûtement vous accompagnent à la fois pendant le karaté et en dehors du karaté ?
Oui, bien sûr. En fait, tout le temps. Mais c'est pas forcément conscientisé. Hein. C'est juste dans une appréhension générale des corps et des corps des autres, des regards des autres. Quand on pratique le combat en dojo, on sait à qui on a affaire en 20 secondes. On connaît à peu près le caractère de la personne, en fait. Parce que ça se révèle tellement puissamment à travers l'attitude de l'autre.
Mais est-ce que c'est le cas en dehors du dojo ?
Oui, bien. Enfin, moins, évidemment, puisque les codes sociaux sont là pour revêtir le comportement de la personne avec énormément de strates de codification qui font que c'est beaucoup moins évident, bien sûr.
Mais il y a un code social aussi au karaté, n'est-ce pas ?
Oui, il y a un code. D'une certaine façon, le combat, puisqu'on pratique aussi les combats, le combat est une conversation. Les combats peuvent être très violents, hein. C'est-à-dire on porte les coups à... C'est difficile à quantifier, mais disons on porte les coups à peu près à 2/3 de la puissance réelle qu'on pourrait porter en se battant pour de vrai, si j'ose dire. Donc les coups sont quand même très, très violents, très puissants. Des fois, d'ailleurs, on est, comme on dit, séché, c'est-à-dire on est effectivement souffle coupé et on ne peut plus bouger. Donc ça veut dire que des fois, on prend des coups forts. Mais disons que... Il y a toujours l'idée d'une conversation dans l'idée du combat. C'est-à-dire que c'est dans un cadre assez précis. Il ne s'agit pas d'exterminer l'autre, mais il s'agit d'être avec l'autre dans une conversation où on va pouvoir s'exprimer, où il va pouvoir s'exprimer, et où parfois on va pouvoir saluer chez l'autre une habileté qui va nous-mêmes nous neutraliser, par exemple. Mais on est sans doute dans ce que Platon décrit avec la dialectique.
Mais est-ce qu'à force de porter et de prendre les coups, on augmente son courage physique ? Est-ce qu'en dehors du dojo, vous vous sentez plus capable et plus armé pour combattre ?
Oui, et puis pour encaisser les coups, tout simplement. Parce que pour donner des coups, il y a une règle absolue. Pour donner des coups, il faut en prendre. Enfin, c'est-à-dire, on ne peut pas voir sans être vu... Et on ne peut pas toucher les autres sans être touché par eux. Donc c'est autant une capacité à donner des coups qu'une capacité à en recevoir, qui augmente.
Et est-ce que vous êtes retrouvé en situation de vous battre à l'extérieur du dojo ?
Non.
Et si jamais vous étiez en situation de devoir vous battre, est-ce que vous le feriez par le moyen du karaté ou...
Bah, sans doute. Mais sans doute qu'il faudrait un bon mobile. L'idéal serait de dégager une espèce d'aplomb suffisant pour que le combat n'ait pas lieu. Les très grands combattants, d'ailleurs, généralement n'engagent pas le combat. C'est-à-dire qu'ils s'observent, ils tournent l'un autour de l'autre, et finalement le combat n'a pas lieu.
Donc le combat est une forme de fiction ?
Pas vraiment, non. Non, c'est pas une forme de fiction, mais c'est une sorte d'ultime recours.
Alors revenons un instant sur les katas. Est-ce qu'il y a un rapport étroit pour vous entre le kata et l'écriture ?
Oui, que je limiterai d'ailleurs pas au kata, mais au karaté en général. Enfin, pour moi, écrire, c'est absolument la même chose que de faire du karaté. C'est-à-dire que l'énergie à la pointe du stylo, puisque moi j'écris encore avec le stylo, la concentration de l'énergie dans le fait de tracer les mots, c'est la même que celle dont j'use quand je pratique, que ce soit les katas ou le combat. Mon corps est tout entier engagé dans le tracé des lettres. D'ailleurs, si je suis physiquement fatigué, si je sens que j'ai pas le dos solide, vigoureux, eh bien, je n'arrive pas à trouver le rythme de ma phrase. Donc, il y a bien un rapport à la respiration, il y a bien un rapport à presque au rythme cardiaque. Et donc, faut que je trouve la pulsation, faut que je trouve le rythme de ma phrase, absolument comme il faut que je trouve ma respiration quand je bouge dans la pratique du karaté. C'est pour moi absolument la même chose. Mais quand j'écris des scènes de roman, je suis tout entier les scènes de roman que j'écris. Donc il y a un oubli de soi complet d'une certaine façon. C'est un très grand malentendu, je crois, cette idée de cette fameuse expression d'un retour sur soi ou d'une méditation sur soi. Enfin, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est un oubli total de soi comme sujet. C'est bien pour ça qu'on arrive à atteindre à une sensation ou à une approche d'une perfection du geste. C'est précisément parce qu'on n'est plus soi et on n'est plus dans une espèce de retour sur soi, entre guillemets, ce qui est une expression que je trouve un peu navrante et surtout qui relève d'un grand malentendu. Mais je crois que c'est pareil quand on écrit. Enfin, quand on écrit, c'est un oubli de soi. C'est devenir totalement la scène qu'on écrit, totalement les personnages qu'on est en train d'écrire. Et c'est pour moi absolument la même chose, en fait.
Mais alors cet art de la décomposition, de la déconstruction et de la lenteur, j'imagine, avec la répétition qui va avec et sans doute aussi des effets de vitesse, sont des choses qui vous aident dans l'écriture, dont vous vous servez ? Est-ce que vous écrivez comme vous faites du karaté ?
J'ai vraiment le sentiment d'écrire comme je fais du karaté, oui. Donc il y a des mouvements très lents, il y a des mouvements très rapides, il y a des explosions. Il y a quelque chose du... C'est une rythmique. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on enseigne les katas ou quand on les pratique soi-même, parce qu'on compte à l'intérieur de soi-même les temps, d'une certaine façon, c'est totalement musical. Hein. Ils sont extrêmement rythmés. Il y a des mouvements très lents, il y a des mouvements très rapides, il y a des mouvements intermédiaires. C'est une chorégraphie rythmée, en fait. C'est comme une chorégraphie musicale, les katas. Donc c'est... Ça a à voir autant avec la musique, la danse que l'écriture, bien sûr.
Donc ça vous permet d'être au plus près d'une forme de musicalité quand vous écrivez aussi ?
Oui, j'ai l'impression, oui. Enfin, en tout cas, ça, c'est totalement poreux entre les deux activités. Et souvent, quand le maître donne des conseils ou corrige des défauts, en fait, je pourrais... pratiquement exactement transposer ces phrases-là pour parler de la littérature.
Vous avez des exemples ?
Non, mais l'idée que le kata est un récit du combat et n'est pas un combat, par exemple, c'est intéressant. C'est une réflexion qui n'est pas de moi. Hein, c'est le maître qui dit ça. Et la manière aussi dans l'apprentissage d'un geste, on va innerver autrement les muscles et on va frayer des nouveaux circuits nerveux, on va frayer des nouveaux circuits neuromoteurs. Enfin, il y a une idée comme ça d'une irrigation du corps par des mouvements tout à fait neufs. Et qu'est-ce qu'on fait quand on cherche une nouvelle syntaxe, quand on cherche de nouvelles sonorités dans une phrase, enfin. Bon, c'est très proche tout ça.
Est-ce que la pratique du karaté en développant tout ce qui est de l'ordre de l'équilibre, j'imagine qu'il faut beaucoup d'équilibre pendant les déplacements, développe un centrage plus fort chez vous ?
Oui, parce qu'on travaille évidemment beaucoup l'ancrage au sol, puisque la terre devient, le sol devient une force, donc il faut essayer de s'ancrer le plus possible dans le sol et en même temps être capable de mouvements, notamment giratoires extrêmement rapides, de demi-tours ou de tours complets extrêmement rapides, donc il faut avoir un grand sens de l'équilibre. Ça développe un très grand sens de l'équilibre. C'est une mesure, en plus, bon, je pratique tous les jours, je vous dis presque tous les jours, et donc on mesure très très bien l'état de son corps, sa capacité à être là ou pas, le sens de l'équilibre ou pas, et c'est une espèce de mesure quasi quotidienne de son état, autant physique que mental d'ailleurs. Et si on n'arrive pas à être dans ses gestes, la sanction est immédiate, en fait. Parce qu'on s'égare dans le kata, même si on l'a pratiqué des milliers de fois, ou dans le combat, on n'est jamais dans le bon temps. Donc il y a une absence à soi-même qui se trouve sanctionnée immédiatement. Donc c'est une mesure de la vigilance. C'est un peu comme la moto. Enfin, je roule également à moto tout le temps et c'est un peu pareil. Enfin, à moto, faut être totalement dans le présent et sinon on est immédiatement sanctionné par un risque d'accident. Et là, c'est pareil en karaté en fait.
Est-ce que vous diriez que le karaté, comme l'écriture, vous aide à contenir vos pulsions, à les maîtriser ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Par rapport à une violence qui est en nous et qui est quand même sans doute très forte, ça nous civilise considérablement.
Mais le karaté ou l'écriture ?
Les deux.
Est-ce que vous écrivez autant que vous faites du karaté ? Si vous deviez renoncer à l'une des deux pratiques, à laquelle renonceriez-vous ?
Là, vous me posez une question, c'est impossible de répondre. Parce que les deux constituent un mode d'existence, pour moi, indissociable. Et par exemple, ce dojo où je suis depuis maintenant 1996, donc ça fait 22 ans que je suis dans ce dojo, en fait, je pourrais pas déménager. C'est-à-dire que je pourrais pas envisager de déménager dans une autre région, parce que, en fait, c'est comme une seconde maison, presque. Et puis, passer des années à faire des combats avec des gens, créer une espèce de complicité et de confiance extrême. C'est-à-dire, le rapport qu'on a entre nous est un rapport très singulier qui n'est constitué que par le karaté. Parce que se battre avec quelqu'un, en fait, c'est pouvoir se blesser, même gravement. Et le fait qu'on puisse faire des combats parfois aussi violents sans jamais se blesser, pratiquement jamais se blesser, je vais dire, implique une confiance immense en l'autre. C'est-à-dire que comme vous êtes obligé, parce que sinon vous ne pouvez pas pratiquer, comme vous êtes obligé, quand vous êtes sur place, d'être totalement immergé dans un présent qui est celui des gestes à accomplir, en fait, tous les nœuds qui vous creusent, qui vous tordent dans votre vie, là-bas, se dénouent parce que précisément, vous ne pouvez plus porter attention à ces nœuds-là qui vous cisaillent. Et donc, ces nœuds se relâchent, en fait. Parce qu'on ne peut pas penser en même temps à ses soucis. Et on peut penser à ses soucis en faisant de la natation, on peut penser à ses soucis en courant, en faisant du vélo. Et j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire que si on va mal, si on est stressé, déprimé, et qu'on court ou qu'on nage, on continue à penser à ses soucis, en fait. Mais là, on peut pas, en ce sens que c'est une impossibilité, quoi. On peut pas parce que on est totalement absorbé par les gestes qu'on pratique, et du coup, les nœuds se défont tout seuls, en fait, parce que il y a plus d'attention sur ces nœuds-là, et donc quand on sort de là, en fait, on est extrêmement extrêmement apaisé, quoi.
Et ils se refont en combien de temps, les nœuds ?
Ah, généralement, on tient quelques heures. Et puis le lendemain, comme on y retourne. C'est pour ça que c'est vraiment une pratique. Sans doute, en plus, en vieillissant, je vois bien, maintenant, je fais partie des anciens. Les anciens, pratiquement, pratiquent tous les jours.
Ils ne peuvent pas s'en passer ?
Oui, on peut plus s'en passer. On sait trop quel abîme est sous nos pas si on s'arrêtait de pratiquer. Et des effets alors c'est pas seulement parce qu'il y a une sorte de sécrétion d'endomorphine ou je ne sais quoi. Il y a véritablement un sentiment d'être extrêmement puissant qui nous envahit par moments.
Mais cette plénitude et cette perfection des gestes, est-ce que vous les vivez en écriture ?
Des fois, dans une phrase, oui. dans une phrase, on se dit, ah oui, tiens, cette phrase, elle tient bien, elle a un rythme parfait, elle a une plaie. Elle a une, voilà, elle a une pulsation juste, elle est, ou elle est fulgurante, ou elle est enveloppante, elle est.
Mais c'est plus aléatoire quand même.
Ben ça se cherche et ça essaye de se construire. C'est pareil. En fait, plus j'avance dans la pratique du karaté, plus je me rends compte que je suis très loin du compte et je vois certains autres pratiquants qui ont commencé encore avant moi, qui ont eux 40, 50 ans de karaté, de pratique, ils sont à des niveaux de perfection que j'atteindrai pas, que j'atteindrai jamais.
Donc c'est aussi un exercice de l'insatisfaction.
Oui, mais de manière extrêmement jubilatoire. C'est-à-dire que c'est ouvert, quoi. Enfin, vous imaginez que c'est pas gagner un centième de seconde ou deux centièmes de seconde sur une course, quoi.
Donc il y a vraiment dans le karaté pour vous un entraînement à la position de l'écrivain.
Oui, bien sûr.
Par rapport au texte.
Oui.
Mais comme s'il devenait une forme de surface de projection.
D'inscription. C'est des forces qui s'inscrivent, c'est des forces qui traversent. Mais c'est pas un sujet en tout cas. C'est pas un sujet qui se sait sujet au moment où ça a lieu.
Ça vous gêne beaucoup l'idée du sujet ?
Oui, ça me gêne beaucoup, oui. Parce que je pense que c'est un obstacle justement à ça.
Pourquoi ?
Parce que le sujet, il est assailli par toute la vie quotidienne, par tous les tracas, les obstacles, les évaluations, de la vie quotidienne, de la vie sociale. Et là, c'est un moment au contraire de grande paix. Et le fait de s'oublier est un immense apaisement. Enfin, vous connaissez les insomnies, quoi. Les insomnies, c'est quand vous êtes vous avez la pensée qui n'arrête pas de tourner sur elle-même, à ressasser des choses du quotidien, les plus banales, les plus anodines, et ça, c'est en boucle et on ne peut jamais s'arrêter et on ne peut pas s'oublier, quoi. On est dans une espèce de folie circulaire et on ne peut pas s'oublier, donc on ne peut pas s'endormir. Et là, vous êtes tellement immergé dans cette activité que vous oubliez totalement qui vous êtes. Vous êtes l'activité. Et ça c'est une grande chance de pouvoir mobiliser cet oubli de soi chaque jour.
Et si vous ne faisiez plus de karaté, de clang, que feriez-vous ?
Alors là, je serais désespéré. Enfin, je deviendrais fou, peut-être.
Merci, Luc Lang.
Merci, Nathalie.
L'écriture est un sport comme les autres. Nathalie Azoulay. Prise de son. Thibaut Saint-Mimben, mixage Benjamin Vignal, réalisation Ghislaine David. Samedi prochain, rendez-vous avec Sigolène Vincent et le surf.